pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est un sujet tabou, un vrai sujet tabou, si on en croit l'Express, qui consacre vaillamment un grand papier il y a quelques années, bravant l'interdit, la vox populi, la morale bien pensante, l'opprobre, courageux, intrépide hebdomadaire. Les personnes âgées ont-elles, elles aussi, le droit de s'aimer ? Si on se rappelle qu'il y a en France plus de 4 millions de personnes entre 75 et 84 ans, on se dit qu'à défaut d'être ultra sulfureux, c'est au moins un sujet concernant. Dans les maisons de retraite, qui ont comme on sait une certaine tendance à considérer les résidents comme des enfants, seuls 8% d'entre eux déclarent apparemment avoir une sexualité. Une activité qui ne susciterait que le déni au mieux, le dégoût au pire. Il n'est pas rare d'ailleurs que les relations sexuelles soient empêchées, même interdites, les couples brisés par le personnel ou par les familles. Les travailleurs et les travailleuses du sexe ne sont pas non plus autorisés à y pénétrer, hélas. Bref, comme dit un médecin dans cet article, à partir d'un certain âge, vous savez, on doit sublimer les choses par la tendresse ou les activités. Au lieu du sexe donc, atelier jeux de société, karaoké et regard humide. Récemment pourtant, quelques prises de conscience sur le sujet ont apparemment donné leurs fruits. Une formation pour les personnels soignants dans le Finistère ou quelques bonnes idées ailleurs, comme mettre à disposition des résidents des petites pancartes ne pas déranger, un peu comme dans les hôtels, qu'ils peuvent coller sur leurs portes s'ils le souhaitent. Mais dans l'ensemble, les vieux meurent de ne pas être aimés, cite l'Express. Aujourd'hui, heureusement, l'histoire que nous allons vous raconter ne brise pas seulement un, mais deux tabous liés à l'âge et à la sexualité. Marie a bientôt 70 ans, elle était institutrice, puis directrice d'établissement pendant 10 ans, et elle a fini sa carrière comme professeur formateur. Elle habite dans l'est de la France, tout comme Constant, qui lui était horloger, qui fabriquait des moteurs de montres. Il vit dans une maison de retraite, et ensemble, à eux deux, ils transgressent à fond. Mais gentiment, à leur rythme, comme vous l'entendrez, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture avec ce récit signé Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Madame, je vous prie, Lady First.
Là, c'est mon petit appartement en ville. Voilà. Donc, on est chez vous ?
Chez moi, oui.
J'ai bientôt 70 ans et je vivais seule jusqu'à présent parce que j'ai perdu mon mari il y a quelques années. J'ai des enfants, des petits-enfants. Et donc, je suis venue ici pour tromper ma solitude en ville. Voilà. Parce que j'habitais plutôt à la campagne. Et je pense que c'est plus facile d'habiter en ville quand on est seul, parce qu'il y a quand même pas mal de propositions culturelles. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer cette personne lors d'un nouvel an chinois. Et j'avais demandé à des amis chinois qui étaient mes voisins si je pouvais, par curiosité, voir comment se déroulait un nouvel an chinois. J'étais à une belle table d'honneur, tout près de la scène, une table de 12 personnes, je crois, on était. Et donc, je suis arrivée, mon nom était sur mon assiette, et à côté de moi, il y avait un monsieur qui s'est levé pour me saluer. Et j'ai trouvé que ce monsieur, déjà, était très chic, très élégant, avec un costume, une cravate et une chemise blanche. Charmant. Voilà.
Bon, la première fois que je l'ai vue, j'ai dit qu'il fallait faire quelque chose. Je ne savais pas qui elle était, cette dame. Donc j'ai donné cette carte-là, avec mon nom chinois. J'ai ma carte de visite que je donne aux gens qui sont là. Voilà.
Et puis, voilà, on a discuté. Et puis, je trouvais que c'était quelqu'un de très intéressant, qui avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et qui était un peu étranger à ma façon de voir les choses. Parce qu'il avait du recul, plus de recul que moi sur la vie, et plus de sagesse. Et en plus, il sait parler chinois, il sait écrire le chinois. Alors je me suis dit, oh là là, mais ce monsieur âgé, il en sait des choses. Et il a la tête qui marche bien, aussi. Et donc on a dîné ensemble, on a partagé le dîner, on a regardé le spectacle. Je me souviens qu'il admirait les jeunes créatures qui étaient sur scène. Nous disons, oh, elles sont jolies ces filles. Mais ben, quand même, c'est un papy, mais quand même, il voit bien ce qu'il faut voir. Alors j'avais trouvé que ce monsieur quand même n'était pas tout à fait ordinaire, qu'il avait quelque chose. Et comme il avait laissé sa carte, eh bien, comme j'avais mes amis chinois qui venaient déjeuner avec moi, on avait préparé un déjeuner ensemble, on lui a demandé s'il aimerait venir partager ce moment avec nous. Et donc il a répondu oui tout de suite. Et il est arrivé avec des fleurs, des chocolats, enfin, plein de choses. Avec son dictionnaire aussi, son dictionnaire chinois. Et il a passé tout le moment à parler chinois avec mes amis chinois. Et puis, d'invitation en invitation, on s'est invité un peu plus souvent. J'étais fascinée par tous ces récits. Il a beaucoup voyagé. Alors, si vous voulez, c'est un monde tellement... Pour moi, c'était tous ces souvenirs de ce passé, de cette vie riche. Quand il me faisait ces récits de voyage ou autre, ça me fascinait.
Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai une belle vie, j'ai fait des Indes. Je suis allé jusqu'au pied de l'Himalaya, je suis monté jusqu'à 3000, parti à 4 heures du matin pour voir le lever de soleil. J'ai fait la Chine, j'ai fait l'Inde, j'ai fait le Maroc, j'ai fait l'île Maurice, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Finlande. Je suis allé jusque tout en haut, la Finlande, voir les aurores boréales. C'était joli, ça. Alors, j'ai eu une vie bien remplie, je pense. Je ne regrette rien.
Voilà. Et puis, on a beaucoup apprécié de se retrouver. D'abord, on allait toujours... on allait toujours déjeuner. Chaque fois, il me disait, « Madame, je vous invite au restaurant. »
Vous vous voyez ?
On se vous voit toujours ?
Toujours.
On ne se dit pas, tu es ?
Voilà. Pour moi, c'est un signe de respect. Mais dans nos petits messages aussi.
Quand on n'est pas ensemble, on communique beaucoup par SMS. Tous les jours, on s'envoie des SMS et on ne se tutoie jamais. Jamais, jamais. Ça fera bientôt deux ans. Oui.
Bientôt deux ans.
Et je lui dis vous. Quelquefois, ça m'échappe le tu, hein. Mais tout de suite, je rectifie. Parce que je me dis non, il mérite un vous, il ne mérite pas un tu. Sans que je me rende compte, il y a cette différence d'âge qui fait que j'ai un grand respect pour lui en même temps.
Et le fait qu'il soit plus âgé que vous, ça ne vous a pas posé de problème ?
Mais quand je suis avec lui, je ne vois pas la différence d'âge. Je ne la vois pas. Je l'ai vu tout au début quand je ne le connaissais pas. Et depuis que je le connais, non.
Et vos proches, les gens autour de vous ?
Alors, c'est mitigé. Dans ma famille, on me dit parfois, tu as raison, vis ta vie, sois heureuse, parce que je suis très heureuse quand je suis à ses côtés. Et puis d'autres personnes, justement, mettent l'accent sur la différence d'âge. Il y a l'éducation aussi.
C'est-à-dire ?
L'éducation judéo-chrétienne, qui fait un peu des dégâts, je trouve. Voilà, donc en plus j'ai été élevée chez les bonnes sœurs. J'ai vraiment vécu pendant très longtemps avec une image des choses qui devaient se faire. Mais bon, quand je vois le couple Macron et Brigitte, je ne sais plus comment, je me dis finalement c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc je me dis après tout, si les Français acceptent cette image-là, ils peuvent très bien se faire à la mienne. Vous savez, dans la rue, des fois, on voit bien que les gens nous regardent de façon bizarre. Un peu.
C'est vrai ?
Ah oui, oui, j'ai déjà remarqué. Lui, non, jamais. Il me dit, laissez faire. Mais moi, je vois, des fois, je ressens ça, oui, oui. Au début, j'avais de la peine à lui donner la main dans la rue. Et puis, je me dis que ceux qui ne comprennent pas, si un jour ils vivent ce que j'ai vécu, ils comprendront peut-être.
Vous avez quoi comme relation ?
Non mais, oh ! On a une relation d'amitié, puisqu'on ne vit pas ensemble. Hein. Je dis, voilà, aujourd'hui je suis là, là je ne suis pas là, là je ne suis pas là, là je suis là, là je ne suis pas là. C'est tout.
C'est moderne, finalement, comme relation?
Peut-être. Assez, oui. Assez. Elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, voilà. Donc on a chacun notre vie, chacun nos amis. On a le plaisir de se retrouver, de sortir. On va marcher, on va déjeuner ensemble.
On aime bien aller au concert ensemble. On fait des sorties ensemble que ni lui ni moi ne ferions si nous étions seuls. J'ai des amis, mais c'est différent. C'est une amitié plus profonde, celle-ci. Et j'arrive à lui dire des choses que je pourrais pas dire à mes amis, par exemple. Des confidences sur mes enfants, sur ma famille, tout ça. Je lui dis des choses que j'ai jamais dit à personne. Et ça, je sais que je peux lui dire ça. Il entend. C'est une amitié presque de couple. Pas tout à fait un couple, puisqu'on ne vit pas ensemble. Mais presque. On a des choses communes et on a des choses personnelles, chacun de notre côté. Et quand on est chacun de notre côté, on ne dit même pas à l'autre ce qu'on fait. Au début, c'est un peu difficile parce que je me dis, oh là là, il exagère quand même. Quand il est là, il est bien gentil et tout. Puis quand il n'est plus là, il ne pense plus à moi. C'est fini, il vit sa vie ailleurs. Alors, j'étais pas trop contente. Quand je le retrouvais, j'étais heureuse d'être avec lui. Et d'un seul coup, hop, ça s'arrêtait. Et ça, au début, j'ai eu du mal à le vivre. Et puis ensuite, eh bien, par respect pour son couple, j'ai accepté. Et puis je veux que ce soit comme ça, parce que moi, je ne veux pas le détourner de sa famille et du fait qu'il y a encore son épouse qui soit là. Donc ça, je ne veux absolument pas.
Mon épouse est très malade, et puis elle n'a plus sa connaissance. Voilà. Elle ne connaît plus, elle n'a pas d'œil, elle ne parle plus.
Elle ne vous reconnaît plus ?
Non. Elle vit dans son monde. C'est ce qu'on appelle la mort blanche. Elle est là, mais elle n'est plus là. C'est l'horreur. Mais bon. Moi, je lui demande comment ça va, je l'appelle par son nom. Je lui demande si elle a faim, si elle a soif, si elle veut quelque chose, si elle a mal. Moi, quand je la vois comme ça, je pleure. C'est très dur d'avoir quelqu'un avec qui on a passé quand même 70 ans de sa vie qui se trouve dans cet état-là, quoi. Et tu fais quoi? Donc je vais déjeuner, je lui donne à manger, je lui donne le midi, le soir, à 4 heures, voilà. Je dois être avec elle.
Vous êtes en maison de retraite?
Oui.
Vous êtes dans la même chambre?
Ah non, parce que là, on ne peut pas, voyons. C'est moi qui ai pris ma décision. J'étais tout seul dans une maison. Je suis mieux là. On vient, on m'apporte mon petit déjeuner, je vois des gens, on fait mon ménage, on fait mon lit, j'ai rien à faire. Et puis tout, la personne, elle est très gentille avec moi. Ma satisfaction, c'est de savoir qu'elle est bien. Elle a une belle chambre. Les gens sont gentils avec, elle est bien traitée, elle est bien soignée. Donc voilà. Puis à côté de ça, ben moi je veux vivre.
Je me souviens qu'il m'avait dit, quand on était à cette soirée, il m'avait dit, mais madame, parce que j'avais dit que j'étais toute seule, que ça faisait 3 ans que j'étais seule et tout, mais il m'a dit, mais madame, il faut être heureuse, il faut vivre. Vous êtes sur la terre pour vivre et non pas pour vous lamenter. Il faut profiter des heures qui passent. Voilà, donc c'est sa philosophie. Parce que lui aussi, il a quand même des coups durs, et il affronte tout ça, et il surmonte tout ça. Il m'a dit, j'ai envie de faire de vous une femme heureuse. C'est beau, ça, non ? Oui. J'ai envie de faire de vous... Alors souvent, il me demande, est-ce que vous êtes heureuse ? Souvent, il s'inquiète de savoir si je suis heureuse. Alors quand je lui dis que je suis heureuse, il est heureux.
Vous êtes heureux, vous ?
Oui, je suis heureux comme un seigneur. J'ai une vieillesse merveilleuse. Tranquille, je ne demande qu'une chose, c'est que ça dure encore longtemps. Encore 50 ans, puis ça va. Ouais. Faut pas rire, hein. Mais pourquoi pas,
c'est beau,
après
oui,
tout.
Oui.
Ouais, dans l'état où je suis, on peut espérer.
Il a une santé incroyable, non ? Oui.
Je fais 6 000 pas par jour, des fois 10 000, des fois 10, 15 000. Ce matin, j'en ai fait 888, tu vois. Ça, c'est la montre connectée. Tu vois, alors, elle est là, Fitbit, donc elle mesure mes pas. Je suis à la page. Hein.
Il a beaucoup d'énergie, il en a beaucoup, beaucoup. Donc il me bouscule, et il me donne cette énergie qui me fait faire des choses et qui sont bien pour moi parce que je me dis que je suis encore capable de les faire. Ce matin, si je n'avais pas été avec lui, je ne me serais jamais trouvée à la gare à 9h du matin. J'aurais encore été dans mon lit à 9h du matin. Et puis, des fois, j'essaie d'être un peu plus coquette et tout ceci et tout cela. C'est mes filles qui me disaient, tu sais, maman, il faudrait que tu te remaquilles comme tu te maquillais avant, que tu te remettes du rouge, mais je l'avale en mangeant, que tu ailles chez le coiffeur. Mais là, j'y suis allée, mais je n'ai pas fait mon brushing, là, alors, donc j'ai dit, je suis un petit peu fou. J'ai retrouvé une féminité, en fait. Enfin, je me dis, oh là là, tu as bientôt 70 ans, ça me fait peur. Puis des fois, j'oublie complètement. Quand on vit cette vie-là, tous les deux, comme ça, cette vie de jeune, en fait, hein, quand je suis à ses côtés, j'ai l'impression qu'on est jeunes tous les deux. Et puis, je me rends compte que je peux faire les choses. Que ce soit au point de vue des tâches matérielles, ou au point de vue sentimental. Je pensais que tout ça, ça s'était arrêté, que c'était fini, que la page était tournée pour moi et que j'étais plus trop femme. Je pense qu'il a fait un peu remonter ma libido, un peu plus. Oui, que je l'avais perdu, je crois. Il m'a fait retrouver ça. Il y a eu ce premier baiser qui a déclenché les choses. Et puis après, comme je voyais finalement, apparemment, qu'il avait une attirance pour moi, ben j'ai essayé après, vous savez, en tant que femme, d'être un peu plus coquette, d'être un peu... Voilà.
Ça a commencé par un bisou, puis ensuite je lui ai demandé « Quand est-ce que vous m'accorderez un vrai baiser, madame ?» Et voilà. Elle ne m'a pas répondu.
Je me dis, mais quand même, il exagère, ce monsieur. Moi, je suis bien gentille avec lui, mais c'est tout, pas plus. Ça serait jamais venu de ma part, j'aurais jamais osé. J'aurais jamais osé parce que je le respectais trop et je l'avais un peu magnifié. Et je me disais que c'était, en plus, avec la différence d'âge et tout, je me serais jamais permise. Et là, il m'a fait prendre conscience que j'étais une femme. Par ses attentions, par son regard, par ses petits mots doux, par tout ça. Donc j'ai compris que je n'étais pas qu'une mamie. Il y a quelque chose qui me revenait en tête souvent, c'est que j'avais raconté à une amie de Paris que j'avais rencontré une personne incroyable. Alors elle m'avait dit, mais quel âge il a, et ceci et cela. Et je lui ai dit, tu sais, ça risque rien, il est très âgé et tout. Et puis elle m'avait répondu, tu sais, un homme est un homme. Ah, je lui avais dit, tu exagères quand même. Ah, je ne revenais pas qu'il ait ce regard-là sur la jante masculine.
Ça dure toujours, ça, toute la vie.
À 94 ans.
Ah ben, j'ai toujours des érections normales. Autant de fois que je veux. Elle est morte. Ça me fait rire. Ben oui.
Il s'est inquiété dernièrement en demandant justement dans un salon de massage si ça pouvait fonctionner longtemps et on lui a répondu aussi longtemps que vous le voudrez. Il paraît que c'est au niveau psychologique aussi que ça marche comme ça. Si on a décidé que c'était fini, c'est fini. C'est comme moi quand je pensais que ma vie de femme était terminée, eh ben, j'avais mis un voile dessus. Mais j'étais surprise qu'il veuille comme ça aller un peu plus loin. Et ça m'a pas étonnée ensuite qu'il m'ait parlé de Karine.
D'aller voir une sexologue.
Oui, il est très sensuel. Et quand il voulait que j'y aille, je lui ai dit, mais pourquoi il veut que j'aille voir cette dame? Moi, j'ai pas besoin d'aller. Je comprenais pas. Et puis, en fait, on a parlé des choses qu'on peut parler à une personne comme elle. Eh bien, déjà, elle m'expliquait que cet amour corporel, ça pouvait être... Il y avait mille façons d'envisager les choses et qu'il n'y en avait pas qu'une. Et c'est vrai que c'est bien agréable. Il y a des caresses, un peu plus que des caresses, des fois. Il faut que ça vienne de tous les deux, quoi, que tous les deux aient envie d'être ensemble. Et c'est beau parce que c'est tout en douceur et dans le temps. C'est pas les rages de jeunesse. C'est pas des envies irrépressibles qu'on peut avoir quand on est jeune. Mais c'est très beau, c'est bien aussi beau. Enfin, pour moi, c'est comme une communion, si vous voulez, du corps, de l'esprit. Voilà. Il y a les deux en même temps, et puis il y a cette approche délicate, douce. Mais j'ai toujours aimé que ce soit comme ça, moi, alors ça tombe bien. Donc en fait, lui, il avait besoin de... Il me dit, j'ai besoin de vous voir. Il avait besoin de voir une femme nue. Voilà. Donc ça n'a jamais été dans le noir. Oui. Ça m'avait beaucoup pesé, tout ça. Et puis là, non, je me dis finalement, c'est vivable. Ça m'a vraiment étonnée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon de me regarder comme ça avec ce désir-là.
Je pense que l'homme âgé, il a plus de temps, il a plus de patience. On en profite mieux parce qu'on prend son temps. On a eu passé la journée.
Au lit?
Oui. On se repose, on se caresse, on s'aime. Tu vois, j'ai l'impression que dans un couple, en général, l'homme il cherche son plaisir. Puis voilà, une fois qu'il l'a, moi, c'est fini. Une fois qu'un homme a eu sa jouissance, c'est fini. Il se retourne, il s'endort, c'est fini. Tandis que quand tu n'as pas cette jouissance, le désir, il est toujours là. Le désir de tendresse, le désir d'être gentil, le désir de faire plaisir, il est toujours là. Puis c'est, pour l'homme, c'est un autre plaisir, c'est pas le même. Mais c'est un plaisir qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. C'est un plaisir qui est sublime.
Vous avez plus de jouissance, vous?
Si, mais je l'évite. Tu fais en sorte que tu l'aies pas, c'est tout.
Vous contrôlez?
Oui. Et quand on sait faire ça, on est beaucoup mieux parce qu'on n'est pas fatigué. Ça vide un homme, ça. C'est une philosophie chinoise, tu vois. Et l'avantage pour une femme, c'est que tu peux faire toute la journée. Donc, comme je fais, mais ça permet de faire le soir, le matin. C'est là le plaisir de sentir deux corps, l'un contre l'autre. On reste des heures comme ça. Tous les atomes communiquent, sont heureux. C'est l'ensemble du corps qui est bien. On est bien.
Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes amoureuse?
Pour moi, l'amoureux, c'est quand on est jeune et qu'on a... C'est pas tout à fait pareil. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'aime partager du temps, qui me manque quand il n'est pas là. Alors, si c'est de l'amour, c'est de l'amour. Si c'est pas de l'amour, c'est de la tendresse. Il y a du respect. Je me sentais très vulnérable quand je me suis retrouvée seule. Et quand je suis à ses côtés, j'ai l'impression d'être forte. En fait, si vous voulez, depuis que je suis enfant, j'avais dans ma tête quelque part l'idée d'une personne qui pourrait être comme celle-là, et je l'ai trouvée. Il est délicat, il est présent, il est attentif, il est tendre, il est protecteur. Enfin, je ne vais pas trop en dire parce que regardez, ça va. Voilà, ce sont des sentiments de l'amour, oui.
Ça vous touche?
Oui.
Très délicat.
Je l'aime.
Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need. To share it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth? You act like you've never had love, babe. That you want me to go without. When it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. You know we carry each other. Carry each other, oh.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Marie et Constant, un reportage de Valérie Borst réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Marie, à Constant, à Karine Bertrand, sexologue. Et c'est bien sûr Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nul ne l'ignore, j'espère. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux pour partager nos émissions, pour les échanger ou bien pour les commenter ou bien également pour nous envoyer des messages si vous avez des questions.